Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous lirons aujourd'hui le chapitre 12 du livre de Frédéric Baudin, D'un jardin à l'autre. C'est le 9e jardin que nous parcourons avec l'auteur de ce livre. Et nous commençons tout de suite notre lecture concernant le jardin de l'amour, avec en début de texte quelques phrases tirées du Cantique des Cantiques, au chapitre 4. Chapitre 12, le jardin de l'amour. Ton amour me ravit. Sur tes lèvres, mon baiser recueille un suc de fleurs et ta langue cache un lait parfumé de miel. Tu es mon jardin privé, petite sœur, ma promise, ma source personnelle, ma fontaine réservée. Tu as la fraîcheur d'un verger de paradis planté de grenadiers aux fruits exquis. Cantique des Cantiques, chapitre 4, les versets 10 et 13. Pénétrons à présent dans ce jardin chanté par les poètes de tous les temps, sous toutes les latitudes. Le Cantique des Cantiques est un hymne à l'amour, jugé digne par les illustres rabbins des temps anciens de trouver place dans la Bible hébraïque. C'est un chant sublime, le plus beau des chants, comme l'indique son titre hyperbolique, car il célèbre ce sentiment puissant comme un feu que des fleuves ne peuvent éteindre. Fort comme la mort, l'amour soulève les hommes et les femmes de toutes les générations. Que l'on attribue dès le premier verset la rédaction de ce poème à Salomon n'étonne pas. Le plus amoureux des rois d'Israël mériterait sans doute cette paternité toujours discutable. Car dans ce cas, le monarque aux 1000 femmes et concubines s'adresserait un ultime reproche. Comme Coëlette, l'Ecclésiaste, il a cherché une femme entre 1000 et ne l'a pas trouvée. Mais il sait désormais que rien ne peut le combler davantage que l'amour d'une seule femme. La bergère du Cantique des Cantiques le sait depuis toujours. Elle s'offre à cet homme avec joie et confiance. À ses yeux, le berger qu'elle aime est unique. Il peut l'amener dans son jardin où les fleurs abondent, où leurs parfums enivrants les portent ensemble à l'amour. À chaque strophe de ce poème insolite, l'érotisme affleure, la sexualité même est exaltée, la passion amoureuse est dépeinte par touches impressionnistes, colorées et savoureuses. Le berger et la bergère se cherchent dans les méandres de ce jardin d'amour où croissent les lys et les mandragores. Ils se trouvent et se réjouissent d'être ensemble, séparés par quelques haies trop hautes de ce labyrinthe végétal, par les épines d'un roncier infranchissable. Ils se guettent avec l'espoir de renouer leur amour. Ils se cherchent à nouveau sans précipitation. L'amour est patient. Ils se retrouvent enfin et goûtent les délices d'une communion intime et bienfaisante. Ils sont souverains en leur jardin des délices, plus heureux que Salomon et sa reine d'une nuit. La bergère Sulamite n'espère rien d'autre que contempler son amant, pareil à un jeune daim bondissant sur les collines de Judée. Le berger ne voit que sa fiancée dans ce lieu où son parfum se mêle à celui des fleurs. Le jardin où il l'entraîne est un verger, Pardès en Perse, ce lieu désigné autrefois un parc arboré. Il évoque désormais le paradis. Aux fleurs et aux fruits, il faut ajouter les divers parfums cités dans ce chant d'amour. Aîné, safran, nard, laurier, cannelle, myrrhe, aloès, jasmin imprègnent les cheveux, la peau, les vêtements de la femme aimée et de son compagnon. Ces parfums de grand prix, issus des diverses familles de senteurs, ont été recueillis avec soin sur les fleurs cultivées dans la vallée du Jourdain ou achetées à quelques marchands traversant les déserts d'Arabie. On note aujourd'hui la composition d'un parfum selon trois critères en fonction de leur volatilité relative. La tête, 2 heures. Le cœur, 4 heures. Et le fond, jusqu'à 24 heures. Ces trois qualités sont aussi celles de l'amour. À 2 reprises, le mari, sous le charme de son épouse, décrit sa beauté rehaussée par de précieux ornements. Il la juge belle encore comme l'aurore. De la lune, elle a le teint de nacre et du soleil, l'éclat de la vie. Elle est comme un lys au milieu des buissons épineux. Sa voix est agréable, son joli visage est allé contre son gré. Ses frères l'ont obligé à surveiller leur vigne. Sa chevelure abondante ruisselle comme des torrents de soie. Ses yeux sont délicats comme la colombe. L'homme amoureux ne peut résister à l'attrait de sa bouche, à ses lèvres semblables à un ruban rouge. Ses dents bien alignées ont la blancheur de la laine d'agneau. Son cou d'ivoire se détache avec grâce. Ses beaux seins attirent ses caresses comme de tendres fans. Il compare son ventre fécond à un champ de blé et son pubis à une coupe évasée remplie de vin aux couleurs de l'amour. Son corps, aux courbes harmonieuses, à la souplesse du dattier, il veut l'embrasser pour en recueillir les fruits. La femme aimée voit en son époux un homme puissant, comme le roi Salomon en armes au retour d'une campagne victorieuse. Il arrive du désert. Elle le reconnaît entre tous. Il s'est enfui un temps, elle l'a cherché. On s'est moqué d'elle. Ses amis lui ont demandé ce qu'elle trouvait de si bon et beau. Elles sont jalouses de l'homme qu'elle aime. Il ne ressemble à aucun autre, leur a-t-elle répondu. Elle le retrouverait au milieu de 10 000 hommes. Elle s'avance vers lui sans hésiter. Ses vêtements ont conservé l'arôme enivrant des cèdres du Liban. Les longues chevauchées à travers les garrigues embaumées sous le soleil lui ont donné un teint cuivré. Elle s'émeut de recevoir les boucles de ses cheveux noirs, scintillantes sous la lumière comme les dattes translucides sur les branches du palmier. Ses yeux expriment la tendresse d'un oiseau penché sur le miroir d'une eau pure. L'iris de ses pupilles révèle un trésor plus précieux que l'or. Ses joues exhalent le parfum sauvage des grands espaces. De ses lèvres couleur d'anémone perle une goutte de myrrhe. Ses bras, comme son torse, semblent couverts de pierres précieuses. Ses jambes sont pareilles à des colonnes de marbre solidement fixées à des socles d'or. Il a fière allure, cet homme qu'elle chérit entre tous. Son air majestueux lui rappelle la montagne de l'Hermon. L'hiver est passé, le printemps est à son apogée. Les pâturages et les vignes sont couverts de fleurs multicolores. Les tourterelles nichent dans les résineux à la sève entêtante. Les premières figues apparaissent déjà, encore vertes et menues comme des gouttes de chair. C'est la saison de l'amour. De bon matin, l'homme entraîne sa femme dans les jardins, dans les vignes, sous les grenadiers en boutons. Allongé à son côté, il soutient sa tête, puis il étreint sa taille. Leurs lèvres s'unissent, leurs langues se mêlent en un long baiser. Elles ont la saveur de la terre promise, le goût du lait et du miel, précise le poète inspiré. Ils sont enlacés, chacun voit en l'autre une image vivante du jardin des délices. Tu es mon jardin, ma source, ma fontaine. Tu as la fraîcheur d'un verger du paradis planté de grenadiers aux fruits exquis, murmure l'homme avec tendresse. La femme lui répond, tu es pour moi comme un pommier chargé de fruits délicieux, j'ai plaisir à m'allonger à ton ombre. Ils sont l'un pour l'autre, un Éden verdoyant et prolifique, aux fragrances subtiles et délectables portées par les vents. Venez, vent du nord et du midi, poursuit la menthe, répandez les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour en manger les fruits exquis. La réponse de l'amant lui fait écho. Je viens à mon jardin, petite sœur, ma promise. Je fais ma cueillette de myrrhe et d'herbes parfumées. Je mange mon rayon de miel. Je bois mon vin et mon lait. On entend au loin le cœur des amis qui se réjouissent de cet échange de promesses et de l'union enfin célébrée, puis consommée. Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16 ou 5, verset 1. Les exégètes sont intrigués par les poèmes de ce recueil. Comment les interpréter? Ils hésitent à les prendre pour ce qu'ils sont, des chants d'amour. Leur portée est universelle. L'amour, ce sentiment sibyllin, est insaisissable. Il a inspiré les artistes de tous les temps, comme d'ailleurs la souffrance et la mort. Pourquoi ces cantiques profanes ne trouveraient-ils pas leur place parmi les recueils de la Bible? On oublie souvent le côté humain, trop humain peut-être, des récits bibliques où sont dépeints, certes, les élans les plus nobles et généreux de l'humanité, mais aussi les turpitudes des hommes et des femmes transpirant la haine ou simplement en mal d'amour. Car c'est bien d'amour que nous rêvons pour combler nos vies, tous et en tout temps. C'est sans doute par pudibonderie que les commentateurs n'ont pas osé dire ces chants d'amour comme de la poésie lyrique. Les métaphores se suffisent à elles-mêmes, l'art poétique les intègre comme de simples figures de style. Les euphémismes même traduisent la réalité, ils expriment mieux la profondeur de l'amour que les descriptions les plus crues. L'ellipse est un art difficile, mais combien fécond. Pourquoi ne pas chanter l'amour dans un livre où l'on parle de l'histoire de Dieu et des hommes? Pourquoi ne pas lire ces poésies comme l'évocation fleurie de l'amour entre un homme et une femme, de leur union célébrée au grand jour au sein de la communauté, puis couronnée dans l'intimité d'un jardin secret? Craindrait-on de trouver dans la Bible un éloge de l'amour humain et de l'union sexuelle? La sexualité est un don du Créateur. Dieu l'a déclarée bonne en accordant à l'homme et à la femme sa bénédiction pour qu'ils soient féconds. Ils ont été encouragés à se connaître, corps et âme, après même qu'ils eurent goûté le fruit d'une autre connaissance que Dieu leur avait pourtant défendue pour les protéger. Rien n'empêche, l'acte sexuel reste bon, le plaisir qui l'accompagne doit être reçu avec une sainte reconnaissance. Ne vous privez pas l'un de l'autre, recommande sagement l'apôtre Paul au couple chrétien uni dans le mariage. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Dans ce jardin, cependant, les limites de l'amour sont fixées par Dieu. Il sait combien la tentation de l'hubris, de la démesure, guette tout être humain qui le rejette et cherche le salut dans une autonomie présomptueuse et insensée. Le jardin de Dieu, si vaste que l'on ne peut en distinguer les quatre points cardinaux, reste entouré de ces murs de pierre que les Latins appelaient autrefois lime et qui en dessinent les contours. La sexualité voulue par Dieu, pour bonne et libre qu'elle soit, n'est jamais débridée. Elle ne s'affranchit pas des limites que l'amour le plus exalté ne peut effacer. L'amour lui-même est un jardin clos aux dimensions infinies. Il ne se réduit pas non plus à ce banal verbe « faire », comme si l'amour se bornait à une technique sophistiquée, souvent marquée par son caractère éphémère. on ne lit plus « amour et toujours ». La rime semble décidément trop facile. On n'ose plus s'engager pour la vie. On assure au mieux des fidélités successives tout en tolérant les écarts à cet idéal au rabais. Quant aux techniques, elles foisonnent, elles font l'objet de savantes et scabreuses descriptions. On remet à l'honneur les ouvrages les plus célèbres, Kama Sutra ou Jardin parfumé des anciens et des modernes, sur l'art de faire l'amour. Le plaisir est légitime, mais on ne peut cependant tout lui sacrifier pour en faire une fin en soi. L'amour est d'abord don de soi. Il est réciproque. Il s'enrichit du partage. La famille née de cet amour est aussi un jardin auquel Dieu nous convie. Heureux les fidèles du Seigneur qui suivent le chemin qu'il a tracé. Ta femme est une vigne fertile. Tes fils sont comme de jeunes oliviers autour de ta table. C'est ainsi que le Seigneur bénit ses fidèles. Psaume 128. Une vie n'est pas de trop pour apprendre ainsi à connaître l'autre, autrement que par la relation sexuelle qui demeure l'un des sommets de cette rencontre permanente dans l'amour. Qu'il y a loin de connaître l'autre à l'aimer. L'amour pour cet autre que nous-mêmes s'enrichit et s'éternise lorsqu'il est enraciné dans l'amour de l'autre, de Dieu qui suscite et entretient l'amour. Que ces poèmes bibliques expriment en premier lieu l'amour qui peut unir un homme et une femme, nul ne peut le contredire. Mais doit-on pour autant jeter la pierre sur les ermites qui ont choisi, contraints par leur pudibonde retenue ou portés par leurs meilleures intentions spirituelles, de les lire comme une allégorie, une image de l'amour entre Dieu et son peuple, entre le Christ et l'Église? Rabbins et pères de l'Église ont épuisé toutes les ressources de l'interprétation parabolique pour décrire l'amour divin, plus sublime encore que l'amour humain, qu'il décryptait entre les lignes de ce cantique parfumé et chatoyant. Cet homme et cette femme ne sont-ils pas si beaux et si parfaits que l'on aurait peine à les rencontrer dans les squares et sur les places de la vie quotidienne? Les thèmes récurrents de l'amour, du jardin, de l'eau vivifiante, des parfums et des fruits rappellent si facilement l'Éden des commencements et son arbre de vie. Le lait et le miel nourrissent le rêve de terre promise sous le règne céleste du Seigneur. Les parfums et les grenades embaumaient et ornaient déjà le tabernacle dans le désert, puis le temple de Jérusalem. Pour ces lecteurs éclairés, le cantique des cantiques et ces jardins d'amour ne cessent d'évoquer en filigrane les hauts lieux bibliques de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Les prophètes, les évangélistes et les apôtres n'ont-ils pas repris cette belle image de l'époux uni à son épouse pour illustrer la relation offerte par Dieu à son peuple? Le thème de l'alliance conclue entre le Seigneur et sa bien-aimée parcourt toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. On y retrouve tous les ingrédients savoureux du mariage. Promesse, don de soi, engagement réciproque, fidélité. Mais le Seigneur se montre résolument fidèle, en tout temps et en toutes circonstances, quand son épouse est souvent surprise en flagrant délit d'adultère et parfois même se prostituant le long des routes, au carrefour et sur les trottoirs. L'idolâtrie, le culte rendu à d'autres dieux qu'au seul vrai Dieu est régulièrement stigmatisé par les prophètes. C'est une forme d'adultère spirituel. L'attachement au Baal, ses mythes, renforce l'image. L'étymologie même de ce nom suggère que ce Dieu est un mari, un maître inflexible et capricieux auquel la femme se soumet davantage par crainte que par amour. En Mésopotamie et dans tout le Proche-Orient ancien, on adore aussi volontiers Ishtar, au nom qui s'appelle aussi Arécha et Astarté. déesse mère qui accorde ou refuse la fécondité. D'un point de vue spirituel, le péché est le même. Dieu se montre alors jaloux, comme le serait un mari rempli d'amour pour sa femme et ne supportant pas son infidélité. Son jugement est radical. Il prend acte du divorce opéré par l'épouse. Il constate qu'elle a brisé l'alliance et repris son indépendance. Mais il l'aime toujours. Il demeure prêt à lui pardonner. Il l'appelle à revenir vers lui. Il ne se lasse pas de multiplier les signes de son amour. Les prophètes Jérémie, Ézéchiel ou Osée ont ainsi dépeint la relation entre Dieu et son peuple. Leur diatribe est parfois véhémente, leurs reproches sont incisifs et leur indignation se mesure à l'aune de la justice et de l'amour divin qui les anime. Le premier chapitre du livre d'Ésaïe passerait peut-être aujourd'hui pour un pamphlet antisioniste, un réquisitoire antisémite. Jérusalem, la cité autrefois fidèle à Dieu, qui représente à elle seule tout le peuple d'Israël, est comparée par le prophète à Sodome, une prostituée, une simple cabane dans une vigne, une hutte dans un champ de concombres, un térébinthe desséché, un jardin dévasté et sans eau. Voir Ésaïe, chapitre 50, 54 ou 62. Ézéchiel écrit une parabole plus explicite encore. Il raconte l'histoire d'un homme et de sa jeune épouse, dont la relation d'abord harmonieuse s'envenime et devient tumultueuse. Le fiancé connaît sa future femme depuis l'enfance. Ses parents étaient étrangers. Il l'a trouvée nue et sans défense. Mais il l'a aimée. Il l'a couverte d'habits princiers. Ils se sont unis. Il l'a comblée. Elle surpasse en beauté toutes les autres femmes. Elle est digne d'un roi. Mais cette beauté lui monte à la tête. Elle s'enorgueillit de son apparence et bientôt se donne sans compter à ses amants. Pire qu'une prostituée se vendant aux passants par détresse, elle les attire en leur offrant des cadeaux. La rupture est entièrement consommée et le mari trompé finit par la répudier. Lire Ézéchiel au chapitre 16. À la différence du Cantique des Cantiques, le parallèle entre Dieu et son peuple est chaque fois établi par les prophètes. Mais les écrivains inspirés ne s'arrêtent pas à ce constat d'échec et à l'amertume de la séparation. Ils annoncent avec d'autant plus de force la clémence de Dieu qu'ils ont mis de vigueur à dénoncer la faute de son peuple. Osée reprend la parabole d'Ézéchiel et franchit le pas décisif. L'époux fidèle choisit une autre femme, une étrangère. Le prophète annonce alors à l'épouse infidèle que Dieu la mènera au désert afin qu'elle entende mieux son appel à revenir vers lui. Le Seigneur lui apparaîtra ainsi dans les lieux les plus arides. Il lui révélera sa constance. C'est grâce à lui qu'elle a survécu pendant ce long et périlleux vagabondage, car il veillait sur elle et pourvoyait à ses besoins quand elle croyait les acquérir par la force de sa seule volonté. Dieu lui ôtera même ses habits, elle sera nue comme au premier jour. Il pourra enfin atteindre son cœur, laisser résonner au plus profond d'elle-même cette voix qui l'appelle à l'amour. Il lui montrera des vignes et une vallée qui seront comme une porte d'espérance, un nouveau pays où il pourra la mener comme au jour où elle est montée d'Égypte. Il lui ôtera de la bouche ce Baal qu'elle n'a cessé d'invoquer en vain. Il conclura avec elle une nouvelle alliance, comme avec les animaux de labour ou les oiseaux et les reptiles qui parcourent les cieux et la terre apaisés. Enfin, la promesse retentit éternelle. Le Seigneur promet à cette femme de l'épouser pour toujours. Ézéchiel et Jérémie proclament le même message de paix. Si l'alliance a été rompue par les hommes, Dieu peut la renouveler et l'inscrire non plus sur des tables de pierre, mais dans les cœurs, sur des tables de chair. Jérémie 31, Ézéchiel 16, 59 ou 37, 26. Il pratiquera lui-même cette circoncision intérieure. Il pardonnera la femme volage, l'adultère entêté par le parfum âpre, des herbes amères glanées dans les pays de l'esclavage. Il accueillera la prostituée dévoyée qui revient à lui humblement, consciente de sa faute, sûre de sa compassion. Elle sera revêtue des vêtements du salut, précise le prophète Ésaïe. Un habit de justice couvrira tant sa nudité que sa faute. Alors, reprennent les prophètes en chœur. Son peuple pourra jouir des fruits du travail divin. Dieu comblera le ciel et la terre de ses bienfaits. Le pays ne manquera pas de blé, d'huile ou de vin. La vallée sera comme un jardin qu'il aura planté avec amour, une ville rebâtie par ses soins. Mais il faudra auparavant que le Seigneur lui-même entre dans un jardin de supplice pour y souffrir comme un simple homme annoncé par encore Ésaïe, chapitre 53 en particulier. Il affrontera l'opposition, il subira le châtiment du coupable et finira par mourir comme un malfaiteur. Le Messie devra connaître le tombeau glacial d'un jardin sinistre avant de l'embaumer de sa présence à nouveau afin de réduire au silence l'accusateur qui accable nuit et jour la mente, parjure et infidèle.
I became a son of God. Oh, happy day. Since I put my trust in God.
Oh, happy day.
Chapitre 13. Le jardin de la souffrance. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, les versets 2 à 5. L'homme et la femme du Cantique des Cantiques étaient jeunes, beaux et bien portants. Si ce berger et sa compagne n'étaient pas riches, ils avaient encore un amour inaltérable pour trésor. La beauté est sans aucun doute un reflet de la gloire du Créateur. Le sentiment qu'elle suscite, de l'émerveillement à l'amour, reste à bien des égards un mystère, un « je ne sais quoi » pascalien. Mais n'est-elle pas aussi le prétexte à bien des contresens et des usages douteux? Combien de très belles femmes offrent-elles leur corps en pâture au regard d'amateurs libidineux en mal de voyeurisme davantage que de plaisir esthétique? Les magazines les plus obscurs exhibent ces corps parfaits sans état d'âme. Ils circulent librement et sont exposés dans les kiosques. Le réseau Internet est saturé de ces pages qui surgissent sur les écrans, souvent à notre corps défendant ou avec une douteuse complicité. La beauté ne sauvera pas le monde, comme l'imaginaient encore les idéalistes du siècle romantique et les adeptes de l'art pour l'art. Mal servie et interprétée, elle peut au contraire le perdre. Elle demeure toutefois un idéal à contempler, une révélation partielle du but à atteindre que l'Académie même ne suffit pas toujours à définir. À trop vouloir, toutefois, contredire cette noble institution et jouer systématiquement dans la cour des indépendants ou rejoindre les partisans de l'art brut, on a multiplié le sens et les canons de la beauté au point que nous sommes aujourd'hui sans repère fixe pour bien l'établir et l'apprécier. Le règne totalitaire de l'image, de soi comme des autres, a érigé l'artifice en règle d'art. On s'attache à ne plus voir aucune ride, aucun pli disgracieux, aucune faiblesse de cette chair que l'on voudrait éternelle et sans défaut. Rembrandt aurait-il peint de nos jours son admirable portrait d'une vieille femme ? Pire, à l'autre extrême, la laideur est désormais considérée comme une forme de beauté. On va jusqu'à sacrifier un animal, a-t-on entendu dire, sur la chaire de quelques écoles des beaux-arts, en guise d'exercice artistique plus cruel que réaliste. Mais ce sont là exemples excessifs. L'art contemporain réserve encore de belles surprises. Au sein de tous ces courants désorientés circulent deux vérités. L'esthétique sera toujours une science du beau idéal. Nous gageons qu'elle continuera d'exercer son tropisme mystérieux sur nos sentiments. La laideur est une donnée incontournable de la réalité. Mais elle est perçue comme anormale et provoque en général un premier mouvement de répulsion. Elle est cependant l'expression de la souffrance universelle qui nous conduit à l'humilité et appelle notre compassion. Car la souffrance n'est pas dénuée de grandeur. Celui qui l'endure avec patience, tant au physique qu'au moral, mérite notre respect, voire notre admiration. Nous souffrons tous, un jour ou l'autre, cette passion qui altère notre beauté et cependant la rehausse d'une autre manière. La souffrance humaine, toutefois, est absurde, incompréhensible et inutile. Nul ne veut plus même, aujourd'hui, la voir ni l'entendre. On la fait taire et on la cache par tous les moyens. On ferme les portes sur les soupirs, les plaintes, les cris d'angoisse et de douleur. La souffrance est un désert traversé par deux chemins. L'un conduit à la révolte et nous éloigne plus encore du jardin des délices. Sur l'autre, le désir de revenir au Seigneur peut sourdre et irriguer ces terres ingrates pour les transformer en jardins fertiles. Le Tout-Puissant les a parcourus pour nous et avec nous dans la faiblesse. Pour cela, il a pénétré en premier lieu dans le jardin de Gethsémani. Le soir où Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, il sait déjà qu'il va souffrir. Il va affronter la trahison de l'un de ses disciples et les accusations de plusieurs éminents maîtres de la loi mosaïque. Il sera condamné sur la déposition de quelques témoins mal intentionnés. Il va endurer les coups et les moqueries de la garde romaine. Il subira enfin le châtiment suprême des occupants dont la religion se nourrit des frasques d'un panthéon versatile et turbulent. Le matin même, tandis qu'une femme répandait sur lui un parfum de grand prix, il a une nouvelle fois annoncé sa mort. Cet embaumement précoce laisse présager les préparatifs de sa mise au tombeau. Le repas de la Pâque est solennel. Les disciples commencent à comprendre que ce céder pourrait être le dernier qu'ils prennent avec leur maître. Comme de coutume, Le dîner est probablement rythmé par le récit traditionnel de la sortie d'Égypte, mais il prend cette fois une dimension singulière. Agneau pascal, herbes amères, pain sans levain et coupe de vin, Jésus amplifie et renouvelle le sens de ces éléments symboliques qui évoquent la délivrance d'Israël sous la conduite de Moïse. Au moment choisi, il ne se contente pas de se laver rituellement les mains. Il prend une tenue de serviteur et lave les pieds de ses disciples. Tous s'interrogent. Pierre s'indigne, Jean le contemple avec admiration. Judas se prépare à le trahir. Il trempe son morceau de pain dans le plat et prétexte aussitôt une course urgente pour quitter les convives. Puis Jésus prend une matza, un pain sans levain. Il prononce la bénédiction habituelle. Il remercie le Dieu créateur qui fait sortir le pain de la terre. Il la brise et en distribue les morceaux à ses proches. Ils ne comprennent pas encore le sens précis de ces paroles énigmatiques. « Ce pain est mon corps donné pour vous ». Ils ne saisissent pas davantage, après qu'ils auront mangé l'agneau pascal, la portée de la bénédiction sur le fruit de la vigne créé par Dieu, et surtout cette parole de délivrance qui l'accompagne. « Ce vin est mon sang répandu pour couvrir vos fautes, buvez-en tous ». Jésus inaugure ainsi pour Israël une nouvelle alliance, élargie aux hommes et aux femmes de toutes les nations sur lesquelles il veut aussi répandre sa lumière. Jésus prononce alors un dernier discours. Jean 13, 17. Comme il est courant après le repas de cette fête que tous les Juifs célèbrent au printemps, si possible à Jérusalem, il répond aux questions de ses fidèles qu'il considère désormais comme ses amis, car il leur parle ouvertement et sans détour. Cette fois, s'il subsiste un doute dans leur esprit, ils s'efforcent de le dissiper. Il est bien le Messie promis. Ses paroles ne souffrent aucune ambiguïté. Il se présente en effet comme le seul chemin qui mène à Dieu, la vérité qui l'éclaire, la vie qui en marque l'issue flamboyante. Il est un avec son Père. Il lui demandera de leur envoyer son esprit afin qu'il demeure avec eux et qu'il ne soit pas seul. Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu un les aime. Le mot revient plusieurs fois. Dieu aime. Ceux qui placent en lui leur foi et qui s'en réclament doivent aussi aimer. Qu'ils soient un eux aussi, comme Jésus et son Père sont un. On reconnaîtra ses disciples, poursuit Jésus, comme un arbre aux fruits qu'ils portent, à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Jésus leur offre de partager ainsi sa joie et sa paix. Une joie profonde, une paix comme on ne peut l'imaginer, elle surpasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Un seul commandement demeure, insiste Jésus. Aimer. Toujours et encore, sans se lasser, cultiver ce fruit dans l'assemblée de ceux qui partagent la foi au Seigneur, le porter vers les foules, susciter la saine jalousie de ceux qui le contemplent et le désirent lorsqu'il prend ses couleurs appétissantes sur l'arbre. C'est ainsi que Dieu sera glorifié. Mais pour que ce fruit mûrisse, il faut rester uni au Messie comme les sarments sont attachés au cep dont le divin vigneron prend soin. Parfois, il émonde les branches inutiles afin que les fruits soient plus beaux encore. Dans la communion retrouvée avec Dieu, la prière sera le lien le plus tangible de cette relation nouvelle. Les disciples de tous les temps ensemble pourront l'appeler « notre Père ». Fils et filles pourront enfin vivre dans le jardin de l'Alliance éternelle où fleurissent et fructifient l'amour, la paix, la joie. Mais pour l'heure, les disciples ne peuvent tout à fait le croire, car l'homme Dieu déclare de nouveau, sans ambages, qu'il va mourir. L'heure s'approche, il est temps de quitter ce lieu paisible où l'on oublie les troubles du dehors et les menaces qui pèsent sur le prince de la paix. Après qu'ils ont chanté les psaumes du Hallel, ces louanges autrefois composées par le roi David et les musiciens du temple, psaumes 113 à 118, Jésus et ses disciples se rendent dans un jardin où ils ont pris l'habitude de se rencontrer pour parler du règne de Dieu. Nous avons à peine commencé la lecture des premières pages du chapitre 13 qui a pour titre « Le jardin de la souffrance ». Nous le retrouverons lors de notre prochaine lecture. Retrouvez l'émission « Je lis pour vous » lors de sa diffusion sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM en DAB+, les mardis et mercredis à 21h30, ou en rediffusion le lundi et le mardi à 6h, ou en podcast sur le site radioallianceplus.fr. À bientôt, chers auditeurs!